Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On les appelle les quartiers défavorisés, les quartiers prioritaires, les quartiers sensibles ou difficiles, et finalement les quartiers tout court. Administrativement, il y a eu les ZUS, zones urbaines sensibles, renommées QPV, quartiers prioritaires de la ville, puis ZEP et enfin REP, réseau d'éducation prioritaire. On pourrait aussi dire les ghettos de pauvres, comme titre Le Monde, qui reprend une étude relevant la paupérisation absolue de secteurs urbains entiers en Île-de-France, où on voit parallèlement se former des ghettos de riches. Heureusement, il y a la politique de la ville, c'est-à-dire toutes sortes de comités, conseils, d'institutions créées depuis 40 ans par les gouvernements successifs pour désenclaver les 10 quartiers, mettre en place des plans pour l'emploi ou favoriser l'égalité des chances. En 1977, Valéry Giscard d'Estaing propose par exemple le programme Habitat et vie sociale sur la réhabilitation des grands ensembles. 10 ans plus tard, Michel Rocard lance le Conseil national des villes et le Comité interministériel des villes. En 1990, Bernard Tapie occupe directement un ministère de la ville et du logement. En 2003, Jean-Louis Borloo propose à son tour un plan national pour la rénovation urbaine qui prévoit la démolition, la construction et la réhabilitation de 600 000 logements sociaux en 5 ans. Sous Chirac, après les émeutes de 2005, il y a une loi pour l'égalité des chances et un plan emploi-éducation avec le fameux CPE, contrat première embauche. Je passe sur le plan espoir-banlieue proposé par Fadela Amara, secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, pour finir sous Hollande avec des conseils citoyens et le plan Vallaud-Belkacem qui promet de réduire de moitié l'écart entre le taux d'emploi dans les quartiers sensibles et le reste du territoire. Pourtant, en 2017, selon l'INSEE, 40% de la population des quartiers bénéficiaires des politiques de la ville vivait toujours dans la pauvreté contre 16% dans le reste du pays. Heureusement, il y a désormais, depuis le 14 novembre 2017, le Conseil présidentiel des villes, lancé par Emmanuel Macron, qui regroupe 25 personnalités engagées et se réunit en théorie tous les 2 mois pour faire des propositions au chef de l'État. Dans un discours prononcé à Tourcoing, le président en a dessiné les contours. Nous avons, nous, rencontré l'un de ses membres, il s'appelle Sabri, et il nous raconte comment il est arrivé là, son parcours, ses impressions. Ça s'appelle « À l'Élysée et au Resto du Cœur » et c'est signé Alice Babin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Les habitants des quartiers, ils veulent pas d'argent public. Ils veulent le plein accès à la République. Mais c'est la considération des dirigeants publics. C'est de passer du temps. C'est d'écouter. C'est de respecter. C'est de construire ensemble. C'est pourquoi durant les 5 années qui viennent, il y a une chose que la République constamment vous donnera, c'est cette considération. Et ça, j'en suis le garant. Il n'y aura pas des réponses miracles sur tout, il y aura parfois des ratés, il y aura sans doute des impatiences, elles sont légitimes. Mais je veux qu'à chaque instant, il y ait la légitime considération que nous devons à celles et ceux qui vivent dans les quartiers.
Prochaine station, Mirail Université. Estación Poniente, Mirail Universitat.
Alors je vais le dire. Donc ici c'est ma chambre. Donc voilà, regarde. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose. Mais tout ce que je l'ai récupéré. Là pareil, le fauteuil, la table. Le seul truc que j'ai acheté, c'est de la tapisserie. Et le cadre. Vous voulez bien un appart avec plein de cadres, tu vois. Plein de trucs artistiques. Là, t'as la salle de bain. Ouais, une petite salle de bain. La cuisine. Et là... Là, c'est ce qui est mon bureau, buanderie, tout ça. Ça, c'est des livres que j'ai récupérés à la raiderie. Donc, t'as des livres en latin, en anglais, en espagnol. Tout ça, 14 euros. Pas cher, avec des dictionnaires, etc. Donc, j'ai la chance d'avoir un T3. Mais il est en sous-loc, donc j'ai pas d'appel ni rien du tout. En même temps, c'était soit ça, soit t'es dehors. Soit tu vis dans ta voiture, tu vois. Donc voilà. Et en ce moment, ben, je suis Reaper. Donc, éboueur. Je ramasse les poubelles. Le tri sélectif, je participe à l'effort pour préserver notre écosystème, je dirais. Mais bon, c'est vrai que c'est fatigant et puis c'est pas ce à quoi je m'étais destiné, entre guillemets, ou ce que j'aurais aimé faire. On va dire qu'au moins c'est utile. Au moins, tu fais quelque chose qui a un minimum de sens, tu vois. Parce qu'en soi, c'est un travail qui a un minimum de sens. Malgré tout ce qu'on peut en dire ou les jugements des gens là-dessus, tu contribues plus à la planète que n'importe quel type qui fait du commerce ou qui, tu vois. Ça paye. Ça paye, mais parce que tu fais beaucoup d'heures. La dernière fois, je fais 5h, 15h de l'après-midi. Ouais, 10 euros de l'heure. Je bosse tous les jours, donc je vais essayer de faire un bon mois là pour pouvoir rembourser ce qui me reste de loyer impayé, il me reste un. Vu que j'ai un découvert de 740 euros, ça pique. Qu'est-ce que tu veux ? J'envoyais 15 CV par jour. Je vais essayer de trouver un taf qui correspond à mes études, etc. 15 CV par jour, au bout d'un moment, tu sais, quand t'envoies 15 CV par jour, au bout d'un moment, il faut manger. Hein. Non, c'est pas le travail que j'aurais voulu faire à la base. J'avais dans la tête l'utopie, en tout cas ce qu'on te rabâche, que ce soit tes profs, tes parents ou tout le monde, fais des études, tu vois. Fais des études et tu pourras avoir un bon métier, tu pourras faire quelque chose de bien, quelque chose de ceci, cela. Et donc j'ai fait des études en me disant, ça va payer un jour. Et donc, à côté de ça, pour financer mes études, à partir de 17 ans, je travaillais à côté. Je travaillais, donc je fais animateur. Mais c'est typiquement ça, tu vois, quand tu viens d'un quartier, le premier truc qu'on te propose, c'est passe ton BAFA. Parce qu'il n'y a que ça et parce qu'on n'a pas le même, on n'a pas le même réseau. Tu as bossé dans quoi ? C'est le réseau hein, qui fait la différence. Je suis le deuxième à avoir eu mon bac. Donc il y a une maison qui l'a eu. Mais quand je l'ai eu, pour moi, c'était un truc de fou. Ma mère disait, oh, si t'as ton bac, c'est fou. C'est un truc de fou, tu vois. Genre, mon dieu me disait, je t'achète une voiture. Et que genre, ça y est, t'as réussi ta vie, t'as fini tes études, tu vois. Et en fait, non, il y a la fac, il y a plein de trucs derrière. La fac, les écoles de commerce, si cela. Et si t'as ton bac, tu fais quoi? Tu fais caissier. Et après, j'ai postulé dans une école de commerce qui s'appelle le NCBCR à Paris, dans le 17e, et en BTS Commerce International. Donc j'ai été pris. Et donc je suis parti sur Paris, tout seul, à mes 18 ans. Et grâce à quelqu'un que je connaissais qui habitait là-bas, j'ai trouvé un appart à Saint-Ouen. Il y avait 5 souris à l'intérieur, des cafards, des... Mais j'avais la chance que cette école-là était gratuite. Mais après, il fallait financer tes voyages, tes stages, etc. C'est là que j'ai commencé à... Pas à dealer, mais à vendre un tas de trucs et un tas de services. Vu que je sortais de McDo, j'ai pris mon expérience de McDo et vu qu'à Saint-Ouen, t'as pas mal de terrain, de renté, qui deal, etc. En gros, moi, je faisais des sandwichs. Je faisais, mais je sais pas combien de sandwichs tous les jours ou tous les week-ends. Ça, les cafés, etc. T'allais prendre ton café, il coûtait 3 euros. Et ben moi, je le faisais à 2 euros ou 2,50 euros. Et t'avais un café de la taille d'un mug Starbucks, tu vois. Donc c'était plus rentable. Les mecs m'appelaient. Ouais, le thé. Genre le Toulousain, tu vois. Ouais, le thé. Le samedi, puisque le reste du temps, j'étais en cours. Sauf quand je bossais le soir, mais le samedi, je faisais 60 euros. Tu vois, juste en vendant des cafés ou des sandwichs et tout. Toi, t'as un chien. Surtout sur Paris, il n'y a pas trop de jardin, pas trop de... Je me rappelle qu'il y avait deux, trois chiens et les pauvres chiens, ils dormaient dans la voiture. Et ben moi, je te disais, ben, donne-moi 10 balles et moi, je te les promène. Et ça me faisait un petit compagnon avec qui me balader dans Paris, à Montmartre, etc. Et donc, je prenais ça, je prenais le chien toute la journée ou des fois, ils dormaient chez moi. Ou même les mecs, hein, tu veux venir chez moi, ben, je te jure que tu payes, mon frère. Tu veux faire une sieste, il n'y a pas de problème, paye. Et tout ce que je prenais, je le coffrais, je le mettais de côté. Et ça m'a permis de financer mes stages. Je me suis pas mis à dealer, pourquoi? Parce que dans ma tête, les études, ça paye, tu vois. En tout cas, à cette époque-là, dans ma tête, les études, ça a payé. Après l'école de commerce, donc j'avais fait plein de stages à l'étranger, en République tchèque, à Dubaï, à Abu Dhabi, Oman, le Qatar, la Turquie, le Japon. Et suite à ça, on va dire, en pleine confiance. Je me disais, putain, c'est fou ce que je vis, tu vois. Parce que je le faisais avec de l'argent propre et que j'avais sué, tu vois, pour le faire. J'étais un des premiers, en tout cas de ma famille, et voire de mon quartier, à bouger comme ça, tu vois. Maintenant, ça s'est largement démocratisé. Il y a plein de gens qui bougent, qui vont en vacances beaucoup plus loin. Et quand je suis rentré à Toulouse, donc j'étais encore dans l'idée d'école de commerce, etc. Donc j'ai trouvé une école. J'ai choisi de la faire en alternance pour pouvoir me payer l'école déjà. Parce que c'était 10 000 euros l'année, tu peux pas. Sauf si tu fais un crédit, et encore je pouvais pas. Et donc j'ai trouvé une entreprise qui me signe un contrat. Et donc j'ai bossé pour lui. Et au bout d'un moment, il m'a dit désolé, mais en fait, on va pas avoir les moyens de te payer. Et sauf que là, l'école a commencé. Donc je me suis retrouvé sans entreprise. Et puis de facto sans école. Parce qu'au bout d'un moment, même si je continuais à aller en cours, l'école m'a envoyé un mail un dimanche pour me dire. Mais t'es bien gentil, les textos, hein, littéralement. T'es bien gentil, etc. Mais t'as pas payé l'école, donc demain ça sert à rien de venir. Pendant un bon 6 mois, j'ai zoné. C'était mort. Et ensuite, j'ai rencontré le préfet. C'était suite aux attentats de Charlie Hebdo en 2015. Et donc j'ai rencontré le préfet, c'était à une réunion sur l'amalgame. Et donc il parlait de la place des jeunes dans les quartiers, etc. J'étais juste parti, je me rappelle, voir mon père pour lui demander 20 euros pour mettre de l'essence. Parce que je n'avais pas d'argent. Et donc je suis parti dans cette réunion qui était à côté. C'était blindé, hein. Véritablement, la salle était full. Et il n'y avait aucun jeune qui prenait la parole sur des sujets qui nous concernent, entre guillemets. Et donc ça m'a agacé, je savais même pas qui j'avais en face de moi à ce moment-là. Et donc j'ai intervenu dans le débat, et puis il y a ce monsieur qui est venu me voir à la fin, et qui m'a dit ce serait bien que tu passes me voir à la préfecture, etc., qu'on puisse discuter. Et je me rappellerai tout le temps, je suis allé là-bas, donc je n'étais pas encore habitué aux coutumes de la préfecture, on va dire, tu vois. Et donc genre j'arrive et bon, je te prends en jogging, je t'en jean. Mais bon, tête cramée, tu vois. Et complètement une tête cramée. Et donc j'arrive à l'accueil, je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur le préfet. On me dit, je me rappelle comment elle m'a regardé, tellement ça m'a mis le doute. Elle m'a dit, vous avez rendez-vous avec qui? Et vraiment, j'ai bugué, je lui ai dit, mais monsieur le préfet? Elle dit, attendez, là, je vais voir. Là. Donc elle a passé un coup de téléphone, effectivement, c'était bien le préfet. Et donc on a eu un petit rendez-vous, on a discuté une heure et demie. De plein de choses, donc notamment du quartier, de ma vision des choses. Et suite à ça, il m'a proposé un truc intéressant, c'était de former un sort de groupe autour de moi, on va dire, pour travailler sur des questions de politique de la ville. Donc en gros, des jeunes qui s'engagent sur ces questions-là. Chose que j'ai fait, j'avais pris la décision de prendre des gens qui étaient à la fois du quartier, diplômés ou non, et des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans le quartier. Histoire que. On converge pas tous dans le même sens. On a fait un certain nombre de propositions. Et vraiment, il m'a donné envie, tu vois, de m'investir là-dedans. À la base, je le faisais littéralement par altruisme, en me disant, si j'arrive à faire changer ne serait-ce qu'un petit truc dans le quartier ou dans tous les quartiers de France, pourquoi pas, tu vois. Ben, franchement, j'en serais fier. Et j'en serais très, très heureux. Et à partir de ce moment-là, vraiment, je me suis dit, je fais un truc qui est utile. Je fais un truc qui m'intéresse. J'ai toujours eu des idées concernant mon quartier. Ne serait-ce que te dire quand t'es petit, ça a commencé petit avec des trucs, j'allais dire des trucs à la con, mais non. En soi, c'est des trucs qui coulent de source. Mais visiblement, ça ne l'était pas pendant un certain temps. C'est, on nous met des interphones, ils sont tous cassés, ou voire même, je me rappelle à l'époque, ils avaient juste mis des interphones pour la forme. Ils ne marchaient pas. Et au lieu de, je sais pas moi, les réparer ou les mettre en marche, non, non, on construisait un city-stade, alors qu'on en a 15 000, tu vois. Et ça a commencé avec des trucs comme ça quand j'étais plus jeune, et je me suis dit, c'est la bonne occasion de pouvoir donner mon avis sur ces sujets-là, tu vois. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en même temps, il faut manger. Donc, c'est bien le bénévolat, mais ça fait pas tout. Et suite à ça, je me suis dit, ben écoute, j'ai les connaissances du terrain, contrairement à certains guignols, mais il me faut en plus des connaissances théoriques. Je me suis dit, il faut que j'apprenne comment fonctionne le système, comment fonctionne l'État, comment fonctionnent les collectivités territoriales, ainsi de suite, tu vois, pour savoir où est-ce qu'il y a des blocages, comment on opère, comment on fonctionne. Et donc, j'ai décidé de faire une prépa à Sciences Po, et voilà, donc je l'ai faite en alternance. À Toulouse, c'était dur parce que j'avais des problèmes, bah, comme d'habitude, quoi. Ça change pas trop, en fait, je dis jamais, mais avec le logement, les trucs comme ça, toutes ces galères-là. Donc je bossais de nuit, en plus de l'alternance.
Nous n'avons pas su relever ces défis en reconstruisant de manière rapide un véritable avenir pour les habitants des territoires qui avaient été alors fracassés.
Et du coup, à ce moment-là, j'attendais un discours sur les quartiers.
Et je vais m'entourer, comme je l'ai fait pour d'autres politiques, d'un conseil présidentiel de la ville où il y aura des représentants des quartiers. Des femmes et des hommes qui ne sont pas là pour administrer la politique des quartiers parce qu'ils ne sont pas rentrés dans ces administrations, mais ils y vivent, ils sont membres d'associations. Ils y sont nés, ils ont réussi ou ils sont aujourd'hui à la tête de telle ou telle structure. Ils y vivent au quotidien, mais sont désengagés. Et j'aurai une quinzaine d'engagés auprès de moi dans ce conseil présidentiel de la ville qui suivra un peu l'action faite au quotidien, m'alertera.
Le CPV, ça a été suite au discours du président de la République à Tourcoing, donc où il parlait de monter une sorte de conseil présidentiel des villes qui travaillerait sur des questions de politique de la ville et sur différentes thématiques, donc logement, emploi, le rapport police-habitant, l'insertion professionnelle, tous ces sujets-là. Et je l'écoutais parler, je me disais, mais c'est super.
Et vous l'avez compris, d'ici février, nous aurons le plan de mobilisation générale. Nous en tirerons des actions concrètes sur le terrain. Tous les 3 mois, il y aura ces réunions de chantier, pour être pragmatique. Et je veux que nous nous concentrions sur une dizaine de quartiers de villes particulièrement en difficulté, pour là avoir des engagements.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bingo donc. Il faut que j'y aille, il faut qu'on puisse remonter les idées qu'on avait travaillées ensemble à Toulouse, et peut-être qu'on aura une chance de les faire passer. Et je me disais, tous les blocages qu'on a eus à l'échelle régionale, on va peut-être pouvoir les débloquer à l'échelle nationale. Donc j'ai appelé le préfet, il m'a dit, bah, écoute, prépare un CV et une lettre de motivation, et on va l'envoyer. Et donc c'est ce que j'ai fait, puis il y a eu 2-3 mois qui sont passés, j'étais en cours. Et puis d'un coup, mon téléphone a sonné, j'ai vu un 01, et je me suis dit, tiens, c'est Paris. Et à la base, je voulais pas répondre, parce que je me suis dit, oh purée, ça doit être free. Et vu que j'avais pas payé ma facture, j'étais là. Oh. Et donc, j'ai pas répondu, j'ai écouté le message. Et j'ai entendu, oui, bonjour, président de la République. Et donc, j'ai bondi de ma chaise, j'ai demandé à mon professeur si je pouvais m'éclipser 10 minutes. Et j'ai rappelé ce numéro. Et voilà, donc on m'a proposé d'intégrer le conseil présidentiel des villes. Et du coup, à ce moment-là, d'un certain côté, je suis content, et je vis des trucs que peu de gens de mon âge, tu vois, ont la chance de vivre d'une certaine façon. Donc ça se passe à l'Élysée, et du coup j'arrive, donc bon, forcément je connais personne, et dans ma tête, j'étais persuadé qu'il y avait que des gens, chose qui est le cas, mais j'allais dire que des gens issus de la société civile, en gros des purs inconnus, lambda comme moi, tu vois. Mais en fait c'était que des associatifs, c'était que des représentants d'asso. On part pour une réunion qui commence entre 8 et 9 heures du matin et on finit en moyenne, ça dépend, en moyenne on va dire à 17-18 heures. On fait des préconisations, en fait c'est ce qui se passe. Et ensuite c'est le président de la République qui tranche, c'est un peu ça le CPV. Mais au bout d'un moment, un truc dans lequel je me suis dit, putain, c'est une super occasion de faire avancer les choses, c'est pas trop le cas. C'est pas trop le cas, ou en tout cas, on a fait bon nombre de propositions qui sont soit parties aux oubliettes, soit qui n'ont jamais vu le jour. Moi, les sujets que je voulais bosser au conseil présidentiel, c'était sur le rapport police-habitant, sur l'emploi, l'éducation, le logement. Mais ça se disperse tellement que c'est pas efficace. Et à un moment donné, je pense qu'il faut, se remettre en question. Donc, on joue le jeu, mais l'idée, c'est qu'on soit pas des faire-valoir. Et à force de faire des propositions et qu'il n'y ait pas de retour, ni même sur « oui, c'est peut-être une bonne idée » ou « non, on peut pas pour telle et telle raison », si ça ne fait pas avancer les choses, au bout d'un moment, autant que je reste chez moi. Cool, hein ? L'Élysée, c'est joli, hein ? Mais bon, on y mange bien peut-être, et après, tu vois. Mais en gros, les gens me voient, je paralysais dans leur tête, j'ai réussi, tu vois. Alors que rien, hein, c'est juste une réunion, mais dans l'imaginaire collectif, je pense que j'ai dit, t'es bien. Là, il dit, t'es bien. Je lui dis, mais bien de quoi, cousin ? T'as plus d'argent que moi. Et tu crois que, ouais, mais t'inquiète, frère, ça va payer. Donc, tu passes beaucoup de temps sur ces sujets-là. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, c'est un truc qui me passionne. C'est un truc sur lequel je suis minimum compétent. Et en tout cas, je connais le sujet. Mais j'ai pas de travail. Et même si je postule, etc., ça, y a rien. Y a rien, tu vois. Je suis dans un endroit où il y a des murs avec des feuilles d'or, ou des tableaux gigantesques, des tables de 8 km. C'est très joli, hein. Mais moi, quand je rentre, c'est un autre délire, tu vois. C'est bien, ça rend les gens, que ce soit de mon quartier ou autre, fiers, tu vois, d'une certaine façon. Mais au bout d'un moment, même les mecs de chez moi, ils me disent, mais putain, t'es à l'Élysée, t'es le seul mec à l'Élysée et au RSA. Au bout d'un moment, tu fais que ça, tu manges pas. Tu fais les poubelles ou tu fais tel ou tel truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Même eux, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a, tu vois ? Quel retour t'as sur les choses ? Est-ce qu'il y a un truc qui s'enclenche ? Est-ce que... Et même moi, je suis pas capable de leur dire. Comment dire ça ? Au début du CPV, t'avançais tes billets. Tu vois, la présidence de l'Élysée te les rembourse. Et donc, quand je pars là-bas, vu que déjà je suis précaire, c'est le mot, ben, quand je pars, l'argent que je dépense, c'est sur un découvert, tu vois. Même si on me rembourse mon billet, en gros, je paye des agios au-dessus. Mais en gros, c'est ça, tu vois. En gros, t'es dans la merde, quoi. En gros, t'es à l'Élysée, tu bouffes au Resto du Cœur. J'avais une carte des Restos du Cœur, ouais, le jeudi. Excellent, on adore. Mais j'aimerais bien vivre en me disant, demain, je sais ce que je vais manger, tu vois. Ou en tout cas, si je sais pas, c'est juste parce que je me suis pas organisé. Ça, et puis me dire, je vais pouvoir me marier, je vais pouvoir... Là, tu veux que je me projette ou investir dans un appartement ou faire ceci. Tu veux que je fasse quoi, là ? Je suis en sous-location depuis 2 ans. Avant, j'étais à droite, à gauche. J'ai pas 1 euro. Je suis sur des trucs qui sont primaires. Je te le dis honnêtement, à l'heure actuelle, je suis perdu, tu vois. Je suis tout aussi perdu que pas mal de jeunes de mon quartier, tu vois, que j'essaye tant bien que mal d'aider. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois. Littéralement, j'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas qu'une question de haine.
Ce n'est pas qu'une question de paix. On n'est pas là pour l'éternité. Donne-moi le flingue, je vais chercher ma paix.
Bang, bang.
Le bonheur viendra pas au coursier. Le critère vient de se faire courser. Juste à côté de la tourcée. Mais comment va-t-il me rembourser? On n'est pas là pour faire des études. King comme l'astute. Qui veut baiser ma répute? J'ai l'âme qui crime.
Tu vois, j'ai toujours envie de rester prudent et de me dire j'attends de voir. Mais bon, ça fait un an. Ouais. Je vais pas dire j'ai pas envie d'y aller pour rien. Mais en tout cas, je vais pas me mouiller financièrement, alors que là, c'est impossible pour moi. Aller là-bas pour être fiché Banque de France, tu vois, non merci. Donc, je vais passer mon tour pour cette réunion-ci, on verra ce qu'il en sortira. Mais là, il faut que je travaille.
On va surtout regarder si on peut rouler tranquillement, sans se faire interpeller. T'as le temps là? On va aller récupérer mon chien. Et comme ça tu verras tout le quartier d'en haut.
Heureux, j'affronte la réalité. Every day, mais je souris. Et je souris. Heureux, j'affronte la réalité. Every day, mais je souris. Et je souris, j'encaisse les jours de pluie. En pluie, en pluie, en pluie. J'encaisse les jours de pluie. En pluie, en pluie, en pluie. J'suis qu'à 5%, le game en a la haine. J'passe, tu vois la scène. Pas de problème, j'circule dans leurs veines. Parce que zombies saignent, leur corps est d'or. Mais c'est une chez mort, like a Wolverine. Elle me parle de love, j'fais déjà mes love. Qu'est-ce que ça m'amène?
C'était à l'Elysée et au Resto du Cœur, un reportage d'Alice Baba réalisé par Cécile Lafont. Merci à Sabri et à Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, ainsi qu'à Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.
J'affronte la réalité. Every day, mais je souris.
Every day,
et je souris. Frérot, j'affronte la réalité. Every day, mais je souris.
Every day,
et je souris. J'encaisse les jours de pluie. En pluie, en pluie, en pluie. J'encaisse les jours de pluie.